Donc Frédéric F. Martin est professeur d'histoire du droit à l'Université de Nantes. Intéressé au départ par les rapports entre normes juridiques et formes, il a récemment élargi son champ de recherche aux formes matérielles et immatérielles des normes juridiques et sociales. Frédéric est aussi un compagnon de route du bijou contemporain depuis de longues années. En plus des conversations nombreuses que nous avons eues ensemble de ce sujet depuis 20 ans, il a été avec Jeroen Weisberg et moi-même co-curateur de différences et répétitions, une exposition de bijoux et d'objets présentés en Norvège et en France. L'exposition de séances et répétitions nous avait donné l'occasion de nous pencher sur la tension qui existe entre un régime de la répétition, qui se situe d'artisan dans sa dimension pratique et pédagogique, et le régime du singulier, qui gouverne la dynamique des avant-gardes artistiques auxquelles s'associe le bijou contemporain. Pour le présent colloque, Frédéric revient sur l'idée de singularité pour proposer une politique du bijou. Il parlera des singularités qui font sens, il interrogera leur place au sein d'un système démocratique égalitaire. On parlera aussi du futur du refus, une sorte de « je ne préfère pas à la part publique ». Le refus de certains gouvernements n'est pourtant pas vide de ça, il ne manque forcément d'une dimension déclamatoire. L'absence aussi peut faire sens. Cette figure du refus, on le verra, n'est pas forcément transgressive. Frédéric nous dira comment transgression et autocensure répondent à deux injonctions différentes. Les exemples donnés souligneront que l'absence ou la présence d'ornements advient dans des espaces politiques spécifiques avec lesquels ils sont en dialogue. Alors j'aimerais rappeler ici peut-être une troisième ou quatrième fois depuis hier un des aspects paradoxaux du bijou qu'on a beaucoup relevé dans la préparation de Mélisa et aussi dans les recherches qu'on fait avec Manita sur le bijou d'or. L'ornement, lorsqu'il accompagne et incarne des usages coutumiers, est un dispositif normatif, voire répressif. Il a en même temps, et pour chaque époque sur laquelle nous nous sommes penchés, l'instrument de transgression multiple et le moyen de s'opposer à la norme. Je remercie Frédéric d'avoir réfléchi à cette dynamique et de partager avec nous ce qu'il dit. Alors, il a levé le sourcil parce que je suis en train de faire des remarques sur la synthèse de sa présentation qu'il m'a envoyée il y a 10 jours. Donc, j'ai l'impression qu'elle est très différente de ce qu'il a dit aujourd'hui. Et donc, il a noté les choses que j'ai dites, peut-être pas du tout. Donc voilà, donc, cette présentation parle d'une autre intervention que Frédéric aurait pu faire.
Oui, voilà. Merci, Benjamin. Ça marche, oui. Non, c'est pas ce moment.
Ouais, je préfère sans fil.
Oui, je prenais effectivement quelques notes parce que c'est pour mieux se concerter avant que pendant, éventuellement après. C'est aussi après. Parce que j'ai sans doute des choses que j'ai oubliées en chemin et pour plus des points que j'ai pas forcément redéveloppé, mais peut-être que je viendrai justement en chemin ou dans la discussion. Excusez-moi. J'ai simplement partir en fait d'essayer de. J'ai eu, comme chaque fois, mais peut-être encore pire que d'habitude, pas mal de difficultés. J'ai éprouvé pas mal de difficultés à construire cette intervention. Parce que j'ai sans cesse essayé de ne pas rapporter le bijou et l'ornement à un phénomène normatif général. Et vous le verrez, j'ai eu bien du mal. Dans ce que je dirais, il y aura beaucoup de généralités assez abstraites sur le fonctionnement des systèmes normatifs. Mais je vais essayer quand même de m'attacher à certains aspects spécifiques du bijou, d'une part, de l'ornement, d'autre part, sans savoir exactement si on peut saisir l'ornement par le bijou ou l'inverse. Pour cela, je voudrais tout d'abord revenir sur quelques-uns de mes points de départ. Mon point de départ, comme Madame l'a dit, c'est un travail sur la normativité juridique et sur ces frontières qui sont des frontières très indécises. La théorie du droit se penche dessus depuis, on pourrait dire quasiment toujours, et surtout depuis le XXe siècle. Et globalement, vous avez une tendance qui est une définition formelle, abstraite, sur ce que le droit devrait être, qui est une forme de définition la plus rigoureuse, au fond. Si on veut définir une norme juridique, et notamment la censure, pour n'en prendre qu'une seule, on est obligé de la réduire à ce qu'elle n'est pas, mais au fond à ce qu'elle devrait être. Parce que quand on regarde ce qu'est la censure, on se rend compte immédiatement que, comme toute norme juridique, elle est sans frontières nettes avec les normes sociales, et qu'à ce titre-là, elle rejoint immédiatement des normes visuelles, des normes sémiotiques, des normes qui sont beaucoup plus anthropologiques que spécifiquement issues d'une société particulière, d'une institution particulière, et moins encore d'un sujet particulier. Le lien entre la normativité juridique et l'image d'abord et la, la, le bijou d'autre part, c'est d'une part que le droit éprouve énormément de difficultés à saisir l'image. Le droit repose essentiellement sur du texte, et reposant sur du texte, il s'efforce de définir, catégoriser, enfermer les images dans des mots. Et en fait, l'image est rétive aux mots. Elle parvient à peu près toujours à y échapper. C'est la première difficulté rencontrée par les rapports droit-image. L'autre difficulté, c'est le fait que le bijou est une image extrêmement spécifique. Extrêmement spécifique parce que c'est une image qui est appropriée, disons, une image personnelle, singulière, même lorsqu'elle renvoie à des codes qui, eux, sont généraux. Donc, pour dire simplement, l'image serait en quelque sorte à l'interface entre le sujet et le commun, avec cette grande difficulté autour de laquelle je vais tourner, qui est que le sujet pur, dans sa stricte singularité, au fond, est à peu près toujours invisible, et lorsque le singulier se dilue complètement dans le commun, lorsqu'il n'y a que du commun, alors il n'y a plus non plus de sens, il n'y a qu'un écrasement de toutes les différences, donc de toutes les significations. Or, du coup, le bijou introduit systématiquement des interférences, des altérations dans un monde social qui ne peut être ni une somme de singularité, ni un univers parfaitement normé, parfaitement commun. Même du point de vue de certaines théories anthropologiques sur les sociétés les plus anciennes et les plus archaïques, sur les sociétés segmentaires, même dans les sociétés segmentaires, il y a quand même un certain nombre de différences. J'y reviendrai dans un instant. Le point de départ, donc, consiste à revenir initialement sur les relations entre droit, image et censure. Je ferai très rapidement autour d'un point, c'est juste un tableau que j'aime bien, qui est un tableau relativement anecdotique du point de vue histoire de l'art, mais là aussi, c'est peut-être souvent plus intéressant, c'est un des aspects du bijou, que de travailler sur l'anecdote, et c'est un terme sur lequel j'espère reprendre une minute. Pourquoi travailler sur l'anecdote? Parce que justement, ça permet de travailler sur ce que la directrice de thèse a utilisé dans la préface qu'elle m'a offerte, préface à ma thèse, et elle a trouvé une formule, je lui en veux d'avoir trouvé cette formule, c'est elle a dit qu'on travaille portait essentiellement sur la normativité minuscule, et je pense, en effet, que la normativité, le cœur de la normativité commence dans le minuscule, et le bijou en est une singulière expression. Dans ce tableau de Nicolas Dehoël, c'est un tableau qui est au Musée des Beaux-Arts de Dijon, on a Saint-Luc tellement la Vierge, je n'attarderai pas sur les raisons pour lesquelles on a Saint-Luc pas dans la Vierge. Vierge, on a l'astuce justement révélateur, puisque l'aspect qui m'intéresse dans ce... C'est évidemment ce qui est caché. C'est le fait qu'on a immédiatement une figuration dans la même image, on a la figuration d'une réalité qui va être peinte, et de la peinture qui est masquée justement par la palette de l'artiste. Du coup, la question se pose, c'est que cette image nous montre ce que nous ne devons pas voir. Cette image montre comment fonctionne la censure, l'un des points essentiels de la censure. Il y a eu énormément de travaux sur la sexualité du Christ. Mais là, on voit une très bonne expression, on est en situe au XVIIe, hein, donc on est post-contre-réforme, donc post-querelle sur l'iconoclasme protestant, donc dénonciation de certaines images. Donc on a à la fois le respect du réel, le respect évidemment de la divinité du Christ, la représentation humaine, et puis la différence c'est que l'image, elle, est un faux, et l'image étant un faux ne peut se montrer, ne peut correspondre à la réalité dans sa plénitude. Où est-ce qu'apparaît du coup le fait que la réalité n'est pas dans sa plénitude? C'est justement en masquant la sexualité. Du coup, c'est à ce titre-là que la censure me semble assez intéressant parce que la censure impose systématiquement, je serai mon temps, me faire des petits signes avec les sourcils, c'est que la censure, pour le dire simplement, mais je vais essayer de détailler ça un petit peu dans le cœur du propos, la censure repose sur un vide, elle institue un vide. En fait, elle institue des images en creux, des signes en creux. Comment pourrait-on très simplement qualifier la censure? Difficile, enfin, différente. Pour en donner une définition simple, je dirais pour ma part que la censure serait une institution de signes prohibés. la parole, geste ou image. Institution de Sigmund Freud. C'est-à-dire ce phénomène bizarre qui consiste à établir que certains signes ne peuvent pas devenir signes. C'est une façon, paradoxalement, de les intituler dans leur absence. Du coup, c'est par cette absence-là, en premier lieu, que la censure se concrétise. Dans le même temps, on dirait effectivement l'un des premiers éléments que l'on constate dans le bijou, c'est au contraire sa présence. C'est le fait que le bijou est présent et le bijou rend présent. Il rend présent tout en se rendant invisible. C'est l'un des premiers points sur lesquels je vais essayer de développer un petit peu. Comment peut-il rendre visible et se rendre invisible? En premier lieu, parce que les éléments les plus anciens du bijou sont des éléments statutaires. J'ai pris un élément de désusage, il y a pas mal d'éléments de désusage, c'est trop grand, cette exposition extrêmement, extrêmement riche, et j'espère qu'on aura le temps de l'évoquer tout à l'heure. La dimension statutaire, là, nous avons ici le cône d'or d'Avanton, donc un objet très ancien. On a plusieurs exemples de ces cônes d'or, donc ce sont des attributs du pouvoir. On se pose la question de savoir s'ils ont été effectivement portés. Dans un premier temps, j'ai pensé que ça ne pouvait pas être le cas. Et en fait, ce sont des objets extrêmement légers. Par rapport à la taille, parce que ça fait combien? Ça fait. Non, un peu moins, je pense, 60 cm, je dirais, à peu près. Avec le support, je crois que ça monte à 80, parce qu'il y a une collerette normalement qui est. Or, ça pèse à peu près 300-700 grammes. Et il y en a les trois exemplaires que l'on a retrouvés en Europe, sont tous à peu près la même taille et le même poids. Donc, ce sont des attributs du pouvoir qui peuvent éventuellement être portés ou simplement posés à côté. Donc, la personne qui a vocation à les porter n'est pas forcément présente. Mais cet objet, cet attribut, est-ce un bijou? Je ne suis pas sûr que ce soit exactement un bijou, mais là encore, c'est la question. Cet objet est un signe du pouvoir, donc il rend présent le pouvoir, il confère à celui qui le porte ou à celui qui devrait le porter une dignité ou une autorité supérieure. C'est un point auquel je suis assez attaché et sur lequel je reviendrai, qui est, selon les termes que j'utilise moi, il autorise, il accroît la valeur de l'objet, et lui donne une dignité que cet objet ou ce sujet n'aurait pas sans lui. Alors le problème de l'autorisation et de ce rapport entre le statutaire et l'objet ou la personne qui le porte, qui est donc orné, c'est que ces deux éléments, disons le support et l'ornement, entretiennent des relations réversibles. Je vais vous présenter, donc il ne faut pas tourner dans les salles, évidemment. Alors c'est évidemment extrêmement schématique, je m'excuse par avance de cette dimension, de cette accumulation. On peut le présenter de cette manière. Si on regarde un bijou statutaire, dans un premier temps, on dirait que l'ornement manifeste qu'il est digne de le porter, que celui qui le porte donc est présumé digne, qu'il est donc digne que je le porte à la fois comme personne et en situation. Et ça manifeste réciproquement que ceci est digne que je le porte en ornement et donc que je suis digne de le porter. Et c'est moi qui vais, finalement, en le portant, établir cette relation-là. Ce que je veux souligner, c'est que, en fait, si on se penche sur les relations au bijou et à l'ornement, on peut exactement renverser la proposition et aboutir à peu près à la même logique à partir des manifestations dites singulières ou contestataires ou transgressives. Je manifeste que je suis digne de porter cela ou que ceci est digne d'être porté. Une épargne à nourrice, par exemple, à elle seule, pourrait être dignifiée. Dignified, c'est le terme le plus approprié. Et je m'autorise, finalement, de cet attribut que je rajoute. Je m'autorise d'autant plus que cet attribut est un attribut, un signe. C'est pour ça que je prends l'exemple de l'épargne à nourrice. Dès lors, on voit bien que la dimension statutaire, qui est la dimension, finalement, la plus ancienne, la plus classique de l'ornement est déjà, enfin, soulève en déjà des difficultés. On le voit également dans un certain nombre de bijoux qui sont restés des bijoux tout à fait communs. Je pense qu'en premier, il y a deux bijoux qui sont évidemment très importants, qui conservent leur dimension statutaire, mais avec des équivoques. Je pense en premier lieu à l'alliance, évidemment, et en second lieu à la médaille de baptême. Qu'est-ce que l'on manifeste lorsqu'on porte une alliance ou une médaille de baptême? Est-ce que l'on manifeste une adhésion à une norme, et à quel moment? En fait, l'adhésion à cette norme suppose une prohibition implicite, soit de porter une alliance ou une médaille de baptême lorsqu'on n'a pas été marié ou lorsqu'on n'a pas été baptisé, soit au contraire d'établir que je porte une alliance, mais je ne suis pas marié, c'est l'alliance par exemple de ma mère qui est décédée, qui m'a donné sur son lit de mort, ou je porte une médaille de baptême, je suis depuis devenu athée, mais c'est un souvenir de mon enfance. Donc on porte un signe qui est un signe social, de manière individuelle, sans que cela soit forcément indiqué à tous les spectateurs, et la mise en public, finalement, introduit, certes, un trouble, mais ce trouble est aussi, est à la fois une manière de s'affirmer singulièrement, et en même temps, une manière de se ranger dans une normativité. Or, ces signes-là, ils sont très nombreux, et on en trouve d'assez nombreuses déclinaisons, au point que chacun peut en jouer, je vais vous donner des exemples avec la médaille de baptême. Du coup, ça a conduit à un certain nombre de réappropriations. Les réappropriations et les transformations ont pu montrer à quel point un certain nombre d'objets ordinaires ou extraordinaires ont pu être réappropriés. L'un des points qui me semble intéressant là-dessus, c'est, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est évidemment caractéristique, c'est le jeu de concurrence des attributs à partir de personnes qui, au départ, n'ont pas le statut digne pour porter ces attributs, et qui vont finalement revendiquer une dignité ou outrer cette dignité pour la dénoncer. On en trouve un exemple très clair, bien connu, dans tous les éléments du rap, dans les reprises des bijoux en rap. L'un des points classiques, c'est l'avortage. On connaît évidemment, le Travis Hider a été évoqué à plusieurs reprises ce matin, la façon dont la montre est un objet qui est devenu, qui est élevé par féminin et qui est devenu masculin. Alors, sur le côté féminin, je n'ai pas pris le temps, et ça j'en excuse, d'aller chercher, parce que féminin au début du 19e, oui. Après, il y a des dimensions plus équivoques, puisque la montre est déjà un objet institutionnel. Je souligne au passage que la montre se désigne elle-même par quelque chose qu'on exige. C'est-à-dire que ça s'appelle montrer, parce que c'est quelque chose qui a vocation à être invisible. On a même fait le même en anglais, c'est watch. Et donc, une montre, c'est quelque chose que l'on montre. Et ce que l'on montre, pour pouvoir le montrer, il faut quand même qu'il y ait soit un statut, soit une dégradation de statut. En l'occurrence, l'avortage a constitué son identité et sa singularité au travers de cette exhibition de montres qui sont ni plus ni moins qu'une revendication de certains éléments qui sont symboliques. La maîtrise du temps est toujours un élément extrêmement symbolique. La façon dont la montre est aujourd'hui encore un bijou très largement genré, pas exclusivement, mais très largement genré. La façon dont, en particulier, si on prend le temps de regarder un certain nombre de scènes d'amour dans des téléfilms pourris, pourquoi est-ce que l'on voit régulièrement la montre de l'homme apparaître? Qu'est-ce qui fait que la montre est régulièrement montrée dans associée à la nudité comme un élément de virilité? On sait, la montre est associée également à la voiture, c'est un attribut de virilité depuis la fin du 19e siècle. Ce qui veut dire aussi que, en disant très très vite ce que c'est la porte-là, en détournant la montre, c'est aussi quand même une manière comme une autre de jouer à qui a le plus gros. C'est quand même à peu près ça que nous montre la porte-là. Du coup, en fait, il montre à la fois qu'il est au départ indigne et en même temps qu'il peut détourner par revier et montrer aussi un certain nombre de signes qui sont des signes de statut social ou de dignité. On en trouve d'autres exemples, je prends juste deux points qui me semblent, deux exemples qui sont intéressants. Gustav Schell de Wotan Clan qui a utilisé Méduse comme un signe. Méduse, entre autres, hein, parce que c'est un grand amateur de bijoux, comme vous voyez à son bras. Et Rick Ross, qui s'est fait connaître par son bijou, puisqu'il a chez les rappeurs une concurrence des bijoux les plus chers, donc des bijoux les plus ostentatoires. Rick Ross qui s'est fait connaître par ce bijou qu'il représente au point d'en faire une version dans laquelle il est représenté portant son bijou qu'il représente. Ces variations là renvoient systématiquement en fait du coup à des ordres sociaux et à des codes justement sur ce que l'on porte et comment on se manifeste socialement à travers le bijou. La difficulté, c'est que du coup, on ne sait plus très bien où se situe la dimension personnelle, singulière. Bien sûr, on dira qu'à la base, oui, il construit son identité avec cette exhibition de bijoux à de nombreux titres, et il la construit tout en détournant ses objets. Mais, dans le même temps, ce que l'on montre semble être une singularité, mais ne peut être une singularité qu'en renvoyant à des normes. Donc, en voyant soit en contestant ce qui a été prohibé, je pense aussi à ces premiers bijoux qui ont été utilisés dans les années 70 en portant des chaînes dorées comme contestation d'esclavage. En fait, le rap ne fait jamais que utiliser cela. La façon dont, ce sont à ma connaissance, les rappeurs qui ont généralisé l'usage des bagues ou des broches avec un signe du dollar. Donc, l'accession à une dignité, l'accession à un pouvoir contre, finalement, une invisibilité antérieure. Donc, en tout cas, c'est très clairement une visibilité. Sauf que cette visibilité, c'est une visibilité singulière qui reprend des codes normés de pouvoir et qui ne sont pas des visibilités strictement individuelles. Le pan symétrique, logiquement, de ces bijoux normés devrait être des bijoux intimes, des bijoux qui seraient de strictes manifestations de singularité. Or, de strictes manifestations de singularité, justement, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas parce que le bijou va sans cesse nous renvoyer à ce qu'il est licite ou illicite de porter, ce qu'il est normal ou anormal de porter, l'image publique que l'on peut, de manière conséquente et reconnue, porter en public. Donc, si le bijou est souvent attaché à une dimension singulière, particulière et éventuellement intime, il n'empêche que c'est une part très faible de l'intime qui apparaît à travers le bijou. C'est non seulement une part très faible, mais finalement c'est un intime public. C'est encore un paradoxe, c'est que l'image de soi ne se montre que par bribes, et l'intime, par définition, reste lui aussi une part qui est fondamentalement invisible. C'est à ce titre-là, je crois que la question des bijoux et des bijoux genrés, et, entre autres, mais pas seulement, des bijoux collectifs ou singuliers, nous renvoie à ce rapport double et trouble de la visibilité et de l'invisibilité du bijou. Au fond, à de nombreux égards, le bijou se rend invisible parce qu'on peut le catégoriser. Le bijou va être rangé parmi un ensemble de catégories, bijou précieux, bijou exubérant, bijou justement genré, bijou... qu'est-ce que j'avais d'autre comme exemple? Je me souviens plus ce que j'avais comme exemple. On a toujours ces moyens de dire qu'au fond, le bijou est toujours un signe de. Et la stricte singularité, c'est un des points qui était intéressant dans la question des Gaga qui a été évoquée ce matin, c'est que le dandy, qui revendique une stricte singularité, doit néanmoins adopter des codes pour que cette singularité soit reconnue comme une singularité valorisée. La stricte singularité en elle-même ne peut pas être reconnue. Elle ne peut être reconnue justement que par des codes, donc par des normes. Le bijou nous renvoie donc à des signes de statut singulier, statut collectif, mais jamais statut strictement personnel. Dès lors, c'est ce qui explique aussi les possibilités de déplacement du bijou. Et ces questions de déplacement ne sont pas nouvelles, elles sont anciennes. Là, on a une illustration d'un objet qui serait, par définition, un bijou, qui semblerait par définition un attribut genré, qui est des écus peignants. Et en fait, là, on trouve, je pense, c'est des images extraites d'une expédition de France. Un certain nombre de femmes peuvent porter donc des écus peignants dans certaines circonstances, et on voit d'ailleurs, voilà, que certaines peuvent les décorer. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il y a à la fois quelque chose de normé, et en même temps quelque chose que l'on présente, que l'on fait varier. Or, les écus peignants, au départ, sont bien des attributs du pouvoir masculin. C'est un peu le minimum. Il semble que, en fait, ces transformations-là soient opérées au moment de la colonisation. Pour de multiples raisons, c'est au moment de la colonisation qu'un certain nombre de femmes ont multiplié, ça existait auparavant, mais ont multiplié la façon de s'approprier ces écus peignants comme façon de manifester, en fait, un interdit, de se protéger contre des atteintes à leur corps. Et en fait, L'étupéfiant est un, du coup, une sorte de protection contre le mauvais œil. Les femmes sont revêtues et du coup, comme elles ont, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, commencé à donner ces étupéfiants à leurs propres enfants. Alors qu'au départ, c'était un attribut qui était réservé aux hommes en premier lieu, et ensuite seulement à certaines femmes, notamment des princesses, pour des questions là aussi statutaires. Donc on a en fait un dépassement, une généralisation, hein, ce qui était réservé à un statut et qui exclut ceux qui ne peuvent pas porter cet attribut. Ce...
7 minutes.
Ah oui, 7 minutes. Ok, alors on va faire... Alors, je vais synthétiser. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est donc cette façon dont le bijou est toujours référé, il n'est jamais proprement lui-même, il est signe de. C'est ce qui, selon moi, rend à certains égards le bijou invisible. Comment dire que le bijou devient invisible? Justement parce qu'à partir des catégorisations, en fait, le principe du bijou, le principe de l'ornement, va être un principe d'autorisation. Comme je l'ai présenté au tout début, je suis digne de porter tel ou tel objet, ou au contraire, tel ou tel objet est un objet indigne, donc le porter comme attribut est une manière de contester une norme. Dit autrement, le bijou renvoie toujours à son support, l'ornement renvoie toujours à son support, ajoute quelque chose, et au fond, disparaît dans ce qu'il ajoute à ce quelque chose. Le bijou en soi, n'apparaît plus que comme une manière, comme un ornement, c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans les définitions d'ornement, et c'est finalement soit ce qui est orné qui apparaît, soit au contraire, bizarrement, ce qui est orné qui disparaît. Je dirais une chose et son contraire. Oui, je dis effectivement une chose et son contraire. Et je l'assume, bizarrement, mais c'est que le bijou nous donne à voir, mais nous donnant à voir un corps orné, il nous empêche de voir ce corps sans ornement, et donc ce corps, justement, dans sa singularité, dans sa particularité, et on va dire dans sa nudité, mais ce n'est pas une question de nudité au sens strict, c'est une question de nudité au sens social. C'est ce qui explique que l'on trouve du coup des relations assez nettes entre ornement et censure. Je prends un exemple là qui m'a été soumis par un ami d'Alain Schultz qui est performeur et qui a eu un performeur de mots, hein, c'est un performeur de mots spécifique, qui connaît extrêmement bien la musique, lui parle de cette exposition Médusa et de la communication, et il me parle de cette couverture d'album de 1983. On se situe là, tout à fait, un peu après le contexte qui est évoqué à Philippe Peters ce matin, et Damien Schultz me dit, mais il me semble que cette couverture a été censurée, et on cherche, et on ne trouve pas. Et à force de chercher, ben, il avait finalement interrogé la personne qui avait ouvert ou écrit le bouquin dans lequel il pensait avoir lu ça. Et l'auteur lui dit non, ma connaissance n'a pas été censurée. Le problème, c'est que la censure prend des formes extrêmement diverses, c'est que la censure étatique, la censure publique, est la forme terminale, la plus classique, et finalement, la plus visible de la censure. La plupart des censures sont des censures beaucoup moins nettes. Si on prend la question des images, par exemple, musicales, les censures s'exercent beaucoup plus de manière privée, soit qu'on ne les achète pas, soit qu'on refuse de les mettre dans les bacs, par exemple, un certain nombre de couvertures d'albums, de pochettes d'albums, ont été retirés des bacs à la demande des distributeurs. C'est-à-dire que ce n'est pas censuré par les États, ce n'est pas censuré par les producteurs, ce sont les distributeurs qui ne veulent pas choquer leur public. Donc, c'est bien de la censure, mais c'est une censure très très différente. En l'occurrence, c'est un objet qui n'a pas été censuré. Mais on voit très bien pourquoi Damien Schultz a pu penser que ce bijou avait été censuré, parce que ça renvoyait justement à ces questions de sadomasochisme et d'érotisation, donc de sexualité, qui est montré tout en étant caché, qui est montré qu'en fait, qu'à travers le piercing. C'est finalement le piercing qui nous donne à voir quelque chose qui est caché, ce qui rejoint l'image de Nicolas Deloret tout à l'heure. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans un autre objet, qui est une première déclinaison qui essaie de Philippe Ramet en 2009 dans le château de l'Opéritueux. Il n'y a pas de manière d'interpréter cet objet. L'un des points qui me semble intéressant, c'est que l'installation de Philippe Ramet peut être lue comme une forme d'érotisation, peut-être. Mieux, il me semble surtout que c'est une forme de monumentalisation. Bien, le château de Königsberg est déjà un bijou.
Oui,
mais justement, le principe du bijou consiste très largement, non pas à être simplement décoratif, sinon s'il n'était que décoratif et s'il n'était si anodin qu'on le dit, alors on s'en dispense très aisément. C'est justement parce que le bijou a davantage d'importance qu'il est à la fois anodin, discret, ce n'est pas du, il fait pas partie des beaux-arts, là j'ai pas passé mes 5 minutes, mais qu'il monumentalise, j'envoie là-dessus à l'opposition qui avait été établie par Jacques Le Goff entre document et monument. On a déjà un monument, ce monument est autorisé, c'est-à-dire qu'au fond, il bénéficie d'un surcroît de dignité par l'ajout de ce fascisme. Ou surcroît d'indignité, on peut le lire dans le deux sens. Mais en tout cas, il est à la fois singularisé en renvoyant à des normes qui sont des normes de prohibition, paradoxalement. On en trouve une autre expression dans cet exemple-là. La façon dont, au fond, on peut montrer en cachant, et au fond, ce que cela nous dit de montrer en cachant. D'un côté, j'arrive pas à mémoriser le nom de cette pièce.
Getting old sucks.
Getting old sucks, donc à gauche. Et que j'ai mis en rapport avec ce mouvement qui est né d'abord à New York, puisqu'il est surtout développé sur Internet, Prison Epoch, qui a consisté à dénoncer la censure d'abord des tétons féminins dans l'espace public, et puis au-delà des tétons féminins sur Instagram et Facebook. L'une des possibilités a consisté à mettre des tétons masculins sur des tétons féminins. On se retrouve là avec un jeu où effectivement on voit très bien comment montrer ce qui est caché, et comment en fait l'ornement disparaît. Et là, au fond, c'est bien le téton qui est le public qui disparaît derrière ce qu'il cache, et en fait, qui montre ce qu'il cache en disparaissant lui-même. D'où ce que je qualifie d'invisibilisation du bijou. On trouve un symétrique dans le travail de Benjamin Mignel, à mon sens, dans la façon dont la broche souligne quelque chose qui n'est pas montré, mais fait apparaître ce qui aurait pu être montré ou ce qui ne devrait pas être montré. C'est selon la façon dont on l'interprète. J'en termine par là en une minute, d'accord. J'entends par là en quelques mots. Alors, en quelques mots, donc démocratie par cette vie. En quelques mots, pour conclure, je vais aller très très vite. Ce qui m'intéresse, c'est le caractère anecdotique. Le caractère anecdotique, de toute façon, on ne parvient pas à la fin. Au fond, à partir du moment où il y a signe, soit ce signe est strictement anodin et auquel il n'est pas vu. Et en l'occurrence, si on prend la broche de Pythagoras, cette peluche est soit totalement anodine et donc est en elle-même invisible, elle ne peut devenir véritablement visible qu'à partir du moment où elle est soulignée, donc elle est montrée ainsi de cette manière, éventuellement soulignée. Cela rejoint aussi ce que vous évoquiez tout à l'heure sur Mounès. Il y a au fond, c'est peut-être dans l'invisibilisation du bijou lui-même que ça peut une des manières d'être le plus singulier. Paradoxalement, plus le bijou est visible, plus il renvoie à des normes, donc à des censures directes ou réciproques. Or, ce phénomène est ancien. Le phénomène, il remonte au moins au néolithique. C'est un point là aussi qui est assez surprenant, c'est que ça, c'est aussi un bijou qui était.
C'est
clair,
parce qu'il est fou, là,
donc
il y a un deuxième niveau de...
Oui, j'ai écrit avec les pauvres moyens de mon appareil photo, qui est déjà un petit peu ancien. C'est la façon dont le bijou nous renvoie éventuellement à des dimensions ordinaires, je prends le bijou décoratif, ou à des dimensions rituelles. Or, ces dimensions-là, je pense que c'était, je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'il était classé dans la partie rituelle. Et j'aimerais bien savoir à quel titre vous l'avez rangé dans la catégorie rituelle, parce que je ne pense pas qu'on ait de traces précises du caractère ritualisé du port des bijoux. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les bijoux font partie des signes institués, et des signes institués les plus anciens. C'est-à-dire que parmi les tout premiers signes institués, on trouve les parures. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça veut dire, ça nous dit tout simplement que le monde social humain s'invente dans le néolithique, et peut-être même avant le néolithique, à travers un certain nombre de parures qui sont autant de signes de différenciation et d'appartenance. Donc autant de signes de distinction, mais également implicitement, nécessairement, de censure. La conséquence, c'est qu'il y a toujours une dimension, ce que je disais, une dimension en creux, même lorsque l'on est parvenu à une forme de démocratisation dans l'expression singulière de soi, donc l'institution singulière de soi dans le bijou. pourquoi est-ce que l'institution singulière de soi ne parvient pas à s'arracher finalement au caractère générique du bijou? C'est en ce sens-là, selon moi, que le bijou nous ramène à cette, oui, à cette question du vide ou d'une absence. Il y a toujours dans le bijou une part qui est invisible, et comme dans tout système normatif, il y a une désignation qui implique ce qui ne peut pas être vu ou ce qui ne peut pas être montré. Or, qu'est-ce que c'est qui ne peut pas être vu, dit ou montré? En quelques mots, je vais un tout petit peu déborder, en quelques mots, ce qui ne peut pas être vu ou montré, c'est au moins le fait que tout n'est pas visible, tout n'est pas visible dans un espace social donné. C'est-à-dire qu'un espace social est déjà un espace social normé, c'est pour ça qu'on a déparlé très tôt, et qu'un espace social normé repose sur justement des absences, des creux, des vides, des éléments qui... C'est le lien avec Barthélemy Bizarre, bizarrement, mais je préférerais ne pas. Ils ne peuvent pas apparaître, à la grande différence de Barthélemy, c'est que ces éléments absents sont rejetés dans les normes, éventuellement bannis. C'est-à-dire que, par définition, le strict rien n'est pas visible. Soit il est complètement hors champ, il n'a pas même de manifestation de son invisibilité, soit il est masqué, donc il est rendu visible, la censure montre ce qui est interdit. Dans les deux cas, néanmoins, cela repose sur ce que je qualifierais d'une institution d'une sacralité, que ce soit d'un point de vue commun, à travers l'alliance évidemment, mais tous les éléments de bijoux normés, d'ornements normés, ou que ce soit à travers des bijoux, des ornements qui prétendent à la singularité. Dans tous les cas, ces ornements ne peuvent apparaître comme signes institués qu'à partir du moment où ils renvoient à un au-delà d'eux qui est un au-delà nécessairement invisible. Cet au-delà invisible, je qualifierais donc de sacralité commune pour ce qui est l'institution sociale dans son ensemble, ou de sacralité propre pour ce qui est de l'intime. L'intime ne se montre que par le vide, et au fond, il est aussi dans le trou, parce que l'intime ne se communique jamais. Au fond, s'il se dévoilait, il ne serait plus intime, d'une part, et au fond, il n'existerait plus puisqu'il n'a pas proprement de forme. L'élément le plus clair de cette intimité, c'est justement la relation entre la parure et une part d'intimité qui ne peut jamais être entrée. Peut-être que la part d'intimité qui ne peut jamais être entrée, c'est justement une sacralité du corps, qui fait que le corps n'est jamais véritablement visible en société qu'à partir du moment où il est orné. Et que le corps, dans sa stricte solitude, et là au sens strict, dans sa matérialité, oui, le corps dans sa matérialité, lui, se trouve hors jeu, comme les juges familles de Sophie Alaga. Je vous remercie. Et je m'excuse du caractère un peu confus. Je n'ai pas précisé ce que j'entendais par nom, mais je précise.
Une particulier.
Ah, singularité.
Ouais.
Idiotie.
Alors là, non.
Oui, ça fait la singularité, c'est un objet qui est dépourvu de référent. Donc on peut saisir que par ses caractères. Enfin, soit on saisit par ses caractères communs et il perd sa singularité.
Soit au contraire, il est strictement singulier, nous n'avons pas d'éléments pour le percevoir, donc il ne fournit aucune cognition. Donc au fond, il n'existe pas. C'est un des paradoxes qui a été soulevé très tôt, en particulier par les nominalistes à la fin du Moyen-Âge. C'est le fait que les institutions, alors les nominalistes n'allaient pas aussi loin, mais que les institutions sociales sont des institutions sémantiques, que ce soit sur des objets matériels apparemment présents ou que ce soit sur des objets sociaux qui sont absents, comme l'État, l'Église ou une école, c'est-à-dire des objets immatériels, que même le matériel, au fond, ne se saisit que dans ses dimensions génériques, jamais dans sa dimension singularité. Or, la réalité n'est faite que de singularité. Donc, au fond, on a un réel qui n'est fait que de singularité, et en même temps, on a un cerveau qui ne saisit que des caractères génériques. Donc, la singularité, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Au sens strict, qui n'a pas de signification.
Là, vous repensez à tout, il vient de dire, ah, c'est ça. On a des questions dans la salle.
Alors je me demandais juste si on ne pouvait pas penser le bijou comme, et le bijou contemporain comme des jurisprudences.
Entièrement d'accord. Alors, je vais répondre précisément. En fait, cette intervention prolonge une intervention. D'ailleurs, j'avais déjà parlé de Freeze and Ripple à cette occasion-là. Une intervention dans un colloque qui était sur la censure, et je m'étais concentré sur la question du floutage. Qu'est-ce que l'on cache, qu'est-ce que l'on montre, et comment on le fait. Et j'avais essayé de montrer qu'en fait, on a une diffraction complète de la censure d'État, d'un censure officiel, qui se décline dans des multitudes d'appropriations personnelles de ce qui est autorisé, de ce qui ne l'est pas, de ce qui peut être, de ce qui est montrable et de ce qui ne l'est pas. Et à ce titre-là, ça conduit à ce que j'appelle, oui, exactement, des jurisprudences privées. Une jurisprudence privée, en droit, c'est un contresens dans les termes. En principe, pour ceux qui se tiennent à une définition moderne du droit, ce dont je ne fais pas partie, fort heureusement. C'est-à-dire, quand je dis définition moderne dans ma bouche, ça veut dire 13e, 19e. Donc, c'est long, moderne pour moi. Je pense qu'on est on a commencé à sortir de la modernité à la fin du 19e. Oui, pardon. Mais oui, je pense que ce sont des jurisprudences privées, c'est-à-dire des façons de s'approprier ce qui est licite et ce qui est illicite. On en a encore un exemple. Ce n'était pas une question de bijou, mais le bijou fonctionne exactement de cette manière-là. C'est pour ça que j'ai parlé de l'épingle à nourrice. C'est pour ça que, au fond, on essaie de jouer avec les censures, et du coup, on renvoie toujours à ces censures. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais se manifester publiquement qu'à travers des ornements qui se renvoient à des ornements licites ou prohibés, et donc à une appropriation, à un jeu, une tension avec la censure.
Tu peux mettre une définition en anglais?
Parce que j'aimerais faire un lien. So there's something about the way that you put in dialogue censorship and the norm. And Elena had a way of saying, you know, there's something about defining the boundary as opposed to being in this, you know, back and forth between two poles. So what do you make of her position and this idea that, you know, some forms of subversion are about just defining that boundary as opposed to.
Alors, vous êtes pas en train
de
dire moi.
Elle parlait d'un moment où Dominique Tiff, elle parlait de tout ça, qu'est-ce qui l'intéressait dans certaines œuvres. C'était cette invisibilité, en fait, c'est de se situer à la frontière plutôt que dans un rapport polaire, enfin, polarité avec la norme ou avec la matière.
Alors, je réponds à ça.
Ok.
Mais. Je crois pas, en fait. Bizarrement, alors que ce que je présente est essentiellement de l'ordre des pôles, je dirais visibilité ou invisibilité, ce sont des pôles qui sont des pôles intellectuels, ce sont des pôles qui n'ont pas de véritable concrétisation. Donc, ce sont des pôles qui nous permettent de comprendre, mais physiquement, parce que le côté matériel, en matière de signes, je suis un peu sceptique, en matière de signes, on est toujours dans une dimension d'interface, et effectivement, si ça renvoie un petit peu à ça, oui, le point qui m'a fait le plus penser, même façon d'aborder les choses, c'est l'utilisation du cadre. Le cadre, c'est exactement quelque chose qui, au sensé, disparaît. Donc, il n'a vocation qu'à établir des relations. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question. Okay.
J'ai été assez étonnée que vous étudiez la chose de verbalité à l'unité. Parce que si on considère que le bijou, que le corps fait partie de l'accessoirisation, etc., de la violette, les canons, etc., tout ce qu'on a pu voir, les chapeaux, les gants, les chaussures, je ne dis pas. On ne se pose pas la question de l'intimité de l'autre côté, de ce que ça peut contenir, de si personnel. Or, de l'autre côté aussi, on parle de la norme. Or, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il est rentré dans une spécificité du bijou qui n'appartient pas forcément à la norme.
Ah, alors je ne pense pas. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question.
Si on considère toute l'accessoirisation du corps et pas spécifiquement le bijou, c'est quand même un des éléments de cette norme. Il n'y a pas ce rapport à l'intimité.
Ah non, c'est bien pour ça que j'ai commencé par le bijou statutaire.
Oui, mais si on évacue la notion de bijou et qu'on ne prend qu'accessoire du corps, on ne peut pas opposer normalité intimité, puisque dans les autres accessoires, tu ne peux pas l'opposer. Donc, à anormalité et à singularité, je ne sais pas, la normalité ne va pas me mettre en intimité.
Non, mais je pense c'est que l'on a tendance à considérer qu'un certain nombre d'attributs vont être des manifestations, et donc justement des formes de jurisprudence privée, des formes de manifestations de quelque chose de singulier et donc d'intime. Sauf que ce que je voulais souligner, c'est surtout que l'intime, par définition, ne se manifeste que par bribes. C'est-à-dire qu'au fond, pour le coup, l'intime, c'est un creux, c'est un imaginaire. Je vais prendre un autre exemple qui est là aussi qui envoie des questions sur l'image. Si on prend l'image qui a été volée, c'est un des premiers travaux que j'ai fait sur l'image qui est volée. C'est justement une image qui porte atteinte à l'intimité, une image qui porte atteinte à la vie privée. Or, en fait, c'est une image qui n'existe véritablement qu'à partir du moment où elle est volée. C'est-à-dire qu'au fond, l'objet intime n'existe qu'à partir du moment où il est rendu public dans l'image volée. Jusque-là, il n'y avait pas d'image. C'est un élément sans image. Donc, l'intimité, au sens strict, à mon avis, n'a pas de forme. Et non seulement il n'a pas de forme, mais il est plutôt un horizon d'attente que véritablement quelque chose. Il n'y a pas d'essence intime. Ça, c'est une question de... Bon, je ne suis pas sûr qu'on ait une existence en dehors de la normalité. Mais...
Je dans ce que j'ai fait, c'est que sinon, c'est pas une chose à la fin, il y a pas une sensibilité, même voire sentimentale, on va le pousser jusqu'au bout, que je ne peux pas avoir.
Que tu ne peux pas voir.
À côté, je n'ai pas... Bon, je n'ai pas dans les rites, dans l'accessoirisation de mon corps, un rapport au mariage, au fiançailles, etc., quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité sensible que j'ai dans le
Oui, mais ça, je crois que ça dépend vraiment des gens. Ça, je crois que c'est vraiment une... C'est pour ça que j'ai parlé de la médaille de baptême, par exemple,
oui,
qui est portée par quelqu'un qui est athée.
Oui, mais on est toujours en vie, mais je ne porte pas un chapeau que je vais garder sur moi par qui m'a fait faire mon voile baptême, même si je suis plus athée. Il y a une spécificité dans le bijou qui est quand même... via beaucoup de raisons, des règles, etc., qui le différencie de tout accessoire.
À ce compte-là, dans ce cas, c'est une exception très restrictive qui différencie, qui fait du bijou un aspect très particulier au sein de l'ornement.
Oui.
Et effectivement, dans ce cas, moi, je parlais davantage de l'ornement que du bijou. Et je pense que, par exemple, les étuis péniens, dans ce cas-là, ne sont pas des bijoux. Et pourtant, on voit bien qu'ils sont décorés. Donc, non, pour moi, établir une telle frontière me semble très, très délicat. Mais... C'est pour ça que poser la question, les parures néolithiques, je ne suis pas sûr que ça soit. Dire que ce sont des bijoux, c'est compliqué. Dire que ce sont des objets rituels, c'est tout aussi compliqué. Pour moi, c'est pour ça que je les appelle signes institués. Je ne vois pas ce qu'on peut dire beaucoup plus d'autres, à moins d'avoir des traces pour des phénomènes. Il y a certaines tombes dans lesquelles on a des rites funéraires qui sont tout à fait manifestes. Mais pour les parures les plus anciennes, je pense par exemple à la parure de Blombos, qui est l'une des parures les plus anciennes, cet enfant qui est quasiment couvert de coquillages, comme on n'a pas d'autres traces, on n'a pas de point de comparaison, on ne sait pas si ça correspond à un rituel, à quelqu'un de tout à fait singulier, c'est difficile. Donc, pour moi, ornement est effectivement quelque chose de plus large, mais je pense que c'est une exception assez particulière et assez contemporaine du livre. C'est pas une idée, je pense. Mais...
Merci. Pardon, Frédéric, ce matin.
Juste une phrase au moment où ça. C'est que j'ai oublié de donner une définition de la norme. Je dis juste que la norme, on a tendance à l'associer à la prescription, et il est très important pour moi de dire que la norme, c'est pas un système de prescription. La norme, c'est un système d'évaluation. La norme, elle commence à l'évaluation. Et c'est ensuite que vient la prescription de se conformer ou non à la norme.
Merci.
Et merci aux organisateurs.